Bonjour frères et sœurs. Toujours une joie de nous retrouver chaque dimanche pour célébrer notre Dieu et pour écouter sa parole. En tout cas, merci Annie pour cette belle première partie, pour ces beaux cantiques chantés pour la gloire de notre Dieu. Et merci Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous ce matin. Dieu veut encore nous parler ce matin. Disposons nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Je vous invite sur ce à la prière. Il est dit dans ta parole, Seigneur, que cette parole, justement, est la vérité. Notre prière ce matin, sanctifie-nous par ta vérité, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous propose ce matin un texte tiré du troisième évangile, pardon, du quatrième évangile, au chapitre 3. L'évangile de Jean, au chapitre 3, et nous lirons les versets 1 à 8. Jean, chapitre 3, versets 1 à 8. Alors, le thème que je vais aborder ce matin à travers ce passage assez connu, quand même, c'est celui de la nouvelle naissance, aussi appelée la régénération. Un thème très important. Alors évidemment, je pense aux nouveaux baptisés, aux candidats au baptême, mais en même temps, je pense à nous aussi. Voilà, c'est très bien de toujours revisiter un peu ces textes pour s'en approprier encore à nouveau et approfondir notre connaissance voilà, sur cette thématique de la régénération, de la nouvelle naissance. En tout cas, je vous assure que c'est un sujet qui est hyper important. Et c'est toujours essentiel que ça soit au clair pour chacun d'entre nous. Voilà. Jean chapitre 3, nous lirons donc les versets 1 à 8. Pour toujours honorer, en tout cas rendre gloire à la parole de Dieu, je vous invite, s'il vous plaît, à vous lever pour ceux qui le peuvent. Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Je vous invite à vous asseoir dans sa sainte présence. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais tout à l'heure que c'est un sujet très important, et vous serez compatissant envers moi du temps que je vais prendre pour aborder ce sujet. Ce sera certainement un peu plus long que d'habitude. Et voyez-vous, c'est à cause de l'importance aussi du sujet, je n'ai pas pu faire mieux que ça. Donc,
je demande de votre indulgence.
La délivrance, frères et sœurs, et comme on le dit souvent, la délivrance de la malédiction d'un côté et de la puissance du péché de l'autre, Dieu l'a accompli. En effet, Dieu l'a accompli à travers la mort de son Fils, Jésus-Christ, sur la croix de Golgotha. Après cela, en tout cas par la suite, Dieu a mis justement le salut à la disposition, je dis bien à la disposition de tous les hommes. Et la Bible dit « afin que quiconque veut l'accepter, justement, soit sauvé. » Alors, souvenons-nous que Dieu a créé l'homme, et en créant l'homme, justement, Dieu sait qu'à cause du péché, à cause de la chute, il n'y a plus aucun bien dans l'homme, plus aucun bien dans l'homme qu'il a créé. Et ça, c'était, à mon avis, assez bouleversant, en tout cas du côté de Dieu. Aucune chair, en réalité, ne pouvait plus lui être agréable, ne peut plus lui être agréable. La chair, vous voyez, est corrompue, mais je dis bien corrompue au-delà, j'entends, de toute possibilité de réparation. Ce n'est pas comme un véhicule où on peut amener dans un garage pour procéder à des réparations. Ce n'est pas possible. Corrompu au-delà de toute possibilité de réparation. La question, c'est donc, comment l'homme peut-il à nouveau plaire à Dieu après avoir cru en son Fils? Comment, si Dieu lui-même ne donne pas à l'homme quelque chose de nouveau? Voyez. Alors, vous voyez qu'on peut rendre grâce à Dieu. Béni soit Dieu en tout cas, car il confère, il donne en fait à l'homme une nouvelle vie. Et la Bible dit qu'il donne cette nouvelle vie à ceux qui croient au salut par le Seigneur Jésus-Christ et à ceux qui le reçoivent donc comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. C'est ce qu'on appelle la régénération ou la nouvelle naissance. Bien que Dieu ne puisse pas changer notre chair, voyez, il nous donne sa vie. La chair de l'homme, je disais, est aussi corrompue. Et ça, il faut que ça soit clair. La chair de l'homme est aussi corrompue chez ceux qui sont nés de nouveau et aussi chez ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Oui. Chez un chrétien né de nouveau, la chair de l'homme est la même que chez un pécheur. Avec la régénération, vous voyez, la chair n'est pas transformée. Non. La nouvelle naissance n'a aucune influence favorable sur la chair. Elle demeure ce qu'elle est, la chair. Vous comprenez? Dieu ne nous accorde pas sa vie pour éduquer la chair. Dieu ne nous accorde pas la vie pour donner une bonne formation à la chair. Non. Mais Dieu nous donne sa vie afin que nous puissions faire quoi? Afin que nous puissions vaincre. Vous voyez, le mot c'est ça, vaincre la chair, afin que nous triomphions de la chair, puisque lors de la nouvelle naissance, l'homme devient lié à Dieu par la naissance de l'esprit. La régénération signifie être né de Dieu, né de Dieu. De même que notre vie charnelle est née de nos parents biologiques, nos parents, ainsi notre vie spirituelle est née de Dieu. Alors, le sens du mot naissance, évidemment, c'est donner la vie. Quand nous célébrons d'ailleurs ce matin la fête des mères, hein, voilà, ça nous fait penser aussi aux souffrances endurées par les mères de nous avoir portées dans leur sein et ensuite donné aussi la vie d'une certaine manière. Et ça nous pousse au respect, à la considération pour les mamans. Et c'est, j'aime à dire que la fête des mères, pour moi, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'il faut considérer les mamans avec beaucoup d'égard, de respect et de considération. Je vais faire cette parenthèse. Voilà, on peut acclamer le Seigneur pour les mamans. Hein. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Frères et sœurs, quand nous disons que nous sommes nés de Dieu, cela veut dire que nous recevons de lui une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Ce que nous recevons à la nouvelle naissance, c'est une vie réelle. Vous voyez, elle n'était pas visible aux yeux, à l'œil nu, mais elle est réelle, cette vie. L'homme, vous voyez, n'est pas régénéré en faisant quelque chose de spécial, mais en croyant au Seigneur Jésus comme à son Sauveur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 12 et 13, Jean dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, il parle de Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté même de Dieu. Donc, ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur sont nés de Dieu et sont par conséquent les enfants de Dieu, ses enfants. Maintenant, ce qu'il faut savoir, frères et sœurs, c'est que la nouvelle naissance est le minimum. Je dis bien le minimum de la vie spirituelle. C'est la porte d'entrée, le minimum. C'est le fondement sur lequel va s'édifier toute la vie ultérieure dans le Seigneur. On ne peut ni parler de la vie spirituelle, ni moins encore s'attendre, voyez-vous, à grandir spirituellement. Mais s'il n'y a pas eu de régénération, s'il n'y a pas eu de nouvelle naissance, ce n'est pas possible. De même que personne ne peut construire un château dans les airs, voyez-vous. De même, on ne peut pas édifier ceux qui ne sont pas régénérés, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Comment? Ce n'est pas possible. Vous voyez que si nous passons notre temps à vouloir bâtir ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, nous perdons notre temps, voyez, et notre énergie. Nous devons d'abord les conduire au baptême et à la nouvelle naissance avant de les bâtir. Avant de les bâtir. Si nous essayons d'apprendre à de tels chrétiens les choses de l'esprit, comme on dit, c'est comme si, au fond, nous voulions instruire un mort. Mais il est mort, comment voulez-vous l'instruire? Ce n'est pas possible. Nous essayons là de faire d'ailleurs ce que Dieu lui-même ne peut pas faire quand nous essayons de réparer ou de réformer la chair. Mais Dieu lui-même ne le fait pas. Ce n'est pas possible. Il est donc vital, bien-aimé, que chaque croyant sache, comme on dit, de connaissances certaines, que chaque croyant sache avec certitude qu'il a été régénéré et a reçu une vie nouvelle. Il faut qu'il voit que la nouvelle naissance n'est pas une tentative de raccommoder la vieille chair ou de la transformer en vie spirituelle. Non, au contraire, c'est recevoir une vie qu'on n'a jamais possédée auparavant. Vous voyez ? Et qu'on ne pouvait pas posséder, justement, avant d'avoir reçu. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, dit Jésus. Il ne peut jamais percevoir les mystères spirituels et goûter, justement, la douceur céleste du royaume de Dieu. Sa destinée, c'est quoi? Évidemment, c'est d'attendre la mort et le jugement. Rien d'autre que cela. C'est tout ce qui lui est réservé. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens juste de planter le décor. Et maintenant, nous allons attacher nos ceintures pour pouvoir décoller. Maintenant que les réacteurs sont mis en marche et que le moteur a commencé à chauffer. Pourquoi un pécheur? Pourquoi un pécheur doit-il naître de nouveau? Pourquoi doit-il naître d'en haut, comme Jésus le dit dans ce passage? Pourquoi doit-il y avoir de régénération de l'esprit? Frères et sœurs, comprenons bien ceci, que tout commence, mais vraiment tout commence du côté de Satan. Tout commence du côté de Satan. Satan est devenu, nous le savons bien, un esprit déchu suite à sa rébellion au ciel et le fait d'avoir induit l'homme, en l'occurrence Adam et Ève, dans le péché. L'homme, de son côté, également est un esprit déchu. L'homme, à cause du péché d'Adam, devenu un esprit déchu. Donc, en tant qu'esprit déchu, l'homme doit naître de nouveau pour devenir un nouvel esprit. Un nouvel esprit. Cependant, la différence entre l'homme d'un côté et Satan de l'autre, c'est que Satan n'a pas un corps. Voyez, il est totalement esprit alors que l'homme a un corps. Étant donné que la chute de Satan a précédé celle de l'homme, donc l'homme, par la chute de Satan, a de son côté des leçons, mais vraiment des leçons à apprendre sur sa propre chute. Oui, l'homme a chuté, il a des leçons à apprendre sur sa propre chute. Satan avait été créé esprit, afin d'être justement en communion directe avec Dieu. Mais sa chute, autrement dit sa déchéance, lui a fait perdre complètement, totalement sa position et il est devenu, comme on dit dans la Bible, le chef des puissances des ténèbres. Il est maintenant séparé de Dieu et de toutes les vertus ou les prérogatives divines. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il soit inexistant. Non, sa chute n'a fait que lui enlever sa juste relation avec Dieu. L'homme, par sa chute, a sombré dans les ténèbres et son lien avec Dieu aussi s'est rompu. Son esprit existe encore, mais il est séparé de Dieu et n'a aucun moyen justement de communiquer, de communier avec lui. Il n'a aucune capacité. Spirituellement parlant, l'esprit de l'homme est mort. Voyez-vous, est mort. Et il n'existe dans ce monde, en tout cas, ni religion, ni morale, voyez-vous, ni éducation, ni loi, ni culture qui soit capable d'améliorer cet état de déchéance. On dit que l'homme a dégénéré et la position qu'il occupe maintenant est qualifiée justement dans la Bible de charnel, qui est le contraire de spirituel. Il n'y a rien en lui qui soit capable de le rétablir dans son état spirituel. C'est pourquoi la régénération, en tout cas la régénération de l'esprit en particulier, est absolument nécessaire. Seul Jésus, je dis bien seul Jésus, le Fils de Dieu, peut nous faire revenir à Dieu, car il a versé son sang, on l'a entendu, il a payé le prix pour nous donner sa vie, une vie éternelle. Donc, quand un pécheur croit en Jésus, Dieu lui accorde sa vie, une vie qui n'a pas été créée, mais qui existe de toute éternité, pour que l'esprit de l'homme redevienne vivant. Ce qui fait que la régénération du pécheur a lieu dans son esprit, uniquement dans son esprit. Cela suppose que l'œuvre de Dieu dans l'homme commence au-dedans. Au-dedans, dans les profondeurs, et va en quelque sorte du centre à la périphérie. Ce que Dieu vise justement en particulier et en premier lieu, c'est de renouveler l'esprit rempli de ténèbres, l'esprit enténébré de l'homme, en lui communiquant la vie. Parce que c'est cet esprit que Dieu avait destiné au commencement à communier avec lui. Et l'intention de Dieu ensuite est de travailler. est de travailler à partir de l'esprit. Je dis bien uniquement à partir de l'esprit de l'homme pour ensuite pénétrer l'âme de l'homme et atteindre son corps par l'esprit. Cette régénération donne donc à l'homme un nouvel esprit et vivifie en même temps l'ancien. Dans Ézéchiel chapitre 36 au verset 26, la parole de Dieu dit « Je mettrai en vous un esprit nouveau. » L'esprit dans ce verset se rapporte donc à la vie de Dieu, car ce n'est pas elle, cette vie de Dieu, que nous avons reçue à l'origine. Elle nous est accordée par Dieu lors de la nouvelle naissance. Cette nouvelle vie ou ce nouvel esprit appartient à Dieu. C'est sa nature. C'est la nature divine. D'après 2 Pierre chapitre 1 verset 4, et cette nature, nous dit Jean, l'apôtre Jean, c'est une nature au fond qui ne peut pas pécher. Vous voyez, 1 Jean chapitre 3 verset 9, la nature divine. Mais notre esprit, quoique vivifié, peut encore être pollué d'après 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, et a en tout cas besoin d'être sanctifié d'après 2 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Quand la vie de Dieu, qui peut tout aussi bien être appelée son esprit, la vie de Dieu, son esprit, entre dans notre esprit humain, celui-ci se trouve donc vivifié et en quelque sorte sort de son coma. Ce qui était étranger à la vie de Dieu reprend vie. Ce qui nous est donné en Adam, c'est un esprit qui a été frappé de mort. Et ce que nous recevons de Christ à la régénération, c'est à la fois l'esprit mort revivifié et le nouvel esprit de la vie de Dieu. C'est quelque chose en réalité que Adam d'ailleurs n'avait jamais eu. Dans la Bible, frères et sœurs, la vie de Dieu est souvent appelée, qualifiée par l'expression « la vie éternelle ». Vie ici, c'est le mot grec zoé qui dénote justement une vie supérieure ou une vie de l'esprit. C'est là ce que tout chrétien en tout cas reçoit à la régénération, à la nouvelle naissance. Alors, quelle est la fonction de cette vie? La vie éternelle, dit Jésus, c'est de connaître Dieu et de le connaître lui-même, que Dieu le Père a envoyé. D'après Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent par le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Elle est donc une capacité, vous voyez, une capacité spirituelle. La vie spirituelle, elle représente à cet effet quelque chose de plus importante, une bénédiction que nous allons recevoir. Cette vie, il ne s'agit pas d'une simple bénédiction, pardon, que nous allons recevoir dans l'avenir. Voyez, mais c'est quelque chose que nous recevons déjà lorsque nous naissons de nouveau. Nous recevons la vie éternelle et nous pouvons évidemment en jouir. Jésus dit, sans cette vie, personne ne peut connaître Dieu, ni personne ne peut le connaître lui aussi, sans la vie éternelle. L'homme ne peut connaître Jésus que s'il a reçu la vie de Dieu. Maintenant, puisque le chrétien, à travers la vie éternelle, a en lui le germe de la nature de Dieu, vous voyez qu'il peut donc grandir jusqu'à devenir, dit la Bible, un homme de l'esprit. Voilà ce que Dieu veut faire de nous, des hommes de l'esprit. Le but que Dieu cherche à atteindre chez l'homme né de nouveau, vous voyez, l'homme régénéré, c'est que par son esprit, l'homme doit se débarrasser de tout ce qui appartient à l'ancienne création. Tout, mais je dis bien tout, parce que c'est dans son esprit régénéré que se trouvent toutes les œuvres que Dieu va accomplir en lui. Uniquement dans l'esprit régénéré. Le Saint-Esprit, c'est ça son travail dans ce parcours, ce processus de régénération. Une fois que l'homme est régénéré, son esprit, je disais, se trouve vivifié par l'entrée en lui de la vie de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est le premier à entrer en mouvement dans cette tâche. La Bible dit il convainc de péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prépare les cœurs humains à croire au Seigneur Jésus comme sauveur. L'œuvre de la croix, nous dit la Bible, a été pleinement accomplie par le Seigneur Jésus-Christ, mais il reste au Saint-Esprit de l'appliquer dans le cœur de l'homme. D'ailleurs, dimanche passé, nous en avons évoqué. Nous devons connaître la relation qu'il y a entre la croix de Christ d'un côté et son application dans nos vies par le Saint-Esprit. C'est la croix qui accomplit tout. Et Jésus pouvait dire à la croix que tout est accompli. C'est la croix qui accomplit tout, mais vraiment tout. Mais c'est le Saint-Esprit qui administre à l'homme tout ce que la croix a accompli. Le Saint-Esprit. La croix nous donne, autrement dit, la croix nous confère une position, mais le Saint-Esprit nous donne l'expérience de la position. La Bible nous dit que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. C'est vrai ce que la Bible nous dit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous en donne l'expérience de la position. Cette position où nous sommes assis dans les lieux célestes. Oui, le Saint-Esprit nous apporte la position, l'expérience. La croix fait intervenir en quelque sorte le fait de Dieu et le Saint-Esprit nous apporte la démonstration au quotidien de ce fait. L'œuvre de la croix crée une position et consomme un salut capable de sauver les pécheurs. L'œuvre de la croix. Et la tâche du Saint-Esprit est de révéler, de montrer aux pécheurs justement ce que la croix a créé et pleinement réalisé pour que l'homme, pour que les hommes puissent en faire, en tout cas, leur expérience et recevoir cela afin d'être sauvés. Bien-aimés, vous voyez que le Saint-Esprit ne fonctionne jamais indépendamment de la croix, de l'œuvre de la croix. Sans la croix, le Saint-Esprit n'a aucun terrain qui lui soit propre et à partir duquel il puisse être en action. Et inversement, sans le Saint-Esprit, justement, l'œuvre de la croix ne produit aucun effet sur les hommes que nous sommes, même si cette œuvre a déjà été effective devant Dieu. Mais sans le Saint-Esprit, elle ne peut rien faire. C'est le Saint-Esprit qui opère directement sur les hommes pour leur salut. Pour leur salut. C'est pour cela que la Bible présente notre régénération comme étant une œuvre du Saint-Esprit. Jésus lui-même dit, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Jean 3, 6. Et plus loin au verset 8, la parole de Dieu explique « est régénéré, tout homme est né de l'Esprit ». Donc, les croyants, frères et sœurs, sont nés de nouveau parce que le Saint-Esprit fait intervenir en leur faveur l'œuvre de la croix, en leur faveur. Et il communique la vie de Dieu à leur esprit. De ce fait, bien aimé, vous voyez que le Saint-Esprit n'est pas autre chose que l'exécutant de la vie de Dieu. L'apôtre Paul dit, mais nous vivons par l'Esprit. Galates 5, 25. En dehors du fait que le Saint-Esprit donne la vie aux croyants à la nouvelle naissance, en dehors de ça, il exécute, il accomplit aussi une œuvre que l'on peut qualifier, entre guillemets, de complémentaire. Mais c'est quelle œuvre? C'est l'œuvre de venir demeurer, de venir habiter en nous. Vous voyez comment c'est formidable? Le Saint-Esprit a sa demeure en nous. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous, dit l'Éternel dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Remarquez ceci, après avoir dit « Je mettrai en vous un esprit nouveau », suit immédiatement cette phrase, je mettrai mon esprit en vous. Donc la première déclaration signifie que les croyants recevront grâce à un apport de vie, un nouvel esprit, par le renouvellement, en tout cas de leur esprit déchu. Je mettrai en vous un esprit nouveau. La seconde déclaration se rapporte à l'habitation ou la demeure, justement permanente, hein, je dis bien permanente, du Saint-Esprit dans leur esprit renouvelé. Je mettrai mon esprit en vous, en vous. Donc, les croyants à la nouvelle naissance obtiennent non seulement un nouvel esprit, mais en plus, le Saint-Esprit vient habiter. Il vient tabernacler en eux, de sorte que dès l'instant où ils trouvent le salut, ils ont maintenant, j'allais dire, la personne ou la personnalité tout entière du Saint-Esprit demeurant, habitant en eux. Il ne vient pas simplement pour une visite, mais il vient pour y demeurer, pour y habiter. Voici l'exhortation de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Scellés. L'emploi du mot attrister ici révèle quoi? L'amour du Saint-Esprit. Il n'est pas dit, ne faites pas partie du Saint-Esprit. Non, non. C'est pas faire partie, mais c'est attrister. Il devient triste tout en continuant. J'allais dire, entre guillemets, malheureusement, enfin, à habiter en nous, mais tout en continuant à habiter. Ce qu'il faut maintenant comprendre à ce niveau, c'est la relation qui existe entre la nouvelle naissance, la régénération, et ce qu'on dit, l'habitation du Saint-Esprit en nous. Si le Saint-Esprit n'est pas... Non, si le Saint-Esprit n'a pas un nouvel esprit à sa disposition, que va-t-il se passer? Il ne trouvera pas de place pour y demeurer. Il ne trouvera pas de place. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 à 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Mais parce que le monde ne le voit pas, ni ne le connaît point, cet esprit. « Mais vous, dites Jésus, vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. » Le Saint-Esprit ne trouve aucune place pour poser ses pieds dans le monde. Il ne peut établir sa demeure que dans la nouvelle création. Ce qui a été né de nouveau. D'ailleurs, souvenez-vous de l'épisode du déluge, Genèse 8. En plein déluge, la colombe est venue et n'a pas pu se poser. Mais parce que c'était le moment du jugement, il ne pouvait pas se poser. Mais lorsque le déluge s'est achevé, la colombe est venue parce que c'était une nouvelle création. La colombe est venue et s'est posée. Donc le Saint-Esprit ne vient que dans ce qui est nouveau, dans la nouvelle création. De la même manière que le Saint-Esprit être inséparable de Dieu, de la même manière, lorsqu'il vient habiter en nous, la Bible dit c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Beaucoup de chrétiens ignorent ceci, qu'à partir du moment où ils ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ont le Saint-Esprit qui habite en eux pour être leur énergie, leur guide et leur Seigneur. C'est précisément la raison pour laquelle, vous voyez, les jeunes chrétiens, en tout cas, en grand nombre, en quelque sorte, manifestent de la lenteur dans leur marche spirituelle. Les années passent, mais, vous voyez, ils n'évoluent pas et semblent ne jamais grandir. Alors, ce triste état de choses témoigne soit de l'incompétence un peu de la part des conducteurs spirituels, ou soit aussi de l'incrédulité de la part, mais de ces chrétiens même. L'œuvre régénératrice du Saint-Esprit ne se contente pas de nous convaincre de péché et de nous conduire à la repentance et finalement à Jésus. Ce n'est pas que ça. Elle nous accorde aussi une nouvelle nature, dit l'apôtre Jean. Une nouvelle nature. La promesse de recevoir le Saint-Esprit au-dedans de nous suit de très près la promesse d'obtenir un nouvel esprit. Et l'une et l'autre ne sont en réalité que les deux parties d'une même promesse. Il vient au-dedans de nous, ensuite il renouvelle notre esprit en convainquant les hommes de péché et en les conduisant à croire au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit ne fait que préparer. Il prépare la place où il va venir demeurer, habiter. Il prépare en quelque sorte les éléments un peu de sa demeure, de sa propre demeure. La gloire, je dirais, éminente de cette période de la grâce qu'on inaugure depuis la Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit de Dieu habite, je dis bien habite le croyant, même si vous ne le sentez pas, c'est pas besoin de le sentir, mais la Bible le dit et vous devez le croire. Le Saint-Esprit habite le croyant afin d'y manifester le Père et le Fils. Dieu a accordé son Esprit à ses enfants. Je vous assure, bien-aimés, que ces choses faites, et les enfants, que doivent-ils faire maintenant? Reconnaître fidèlement le Saint-Esprit et se soumettre à lui de façon loyale. Le Saint-Esprit, quelle que soit la lenteur des chrétiens à reconnaître que le Saint-Esprit de Dieu habite en eux, en personne, mais le fait est là. Dieu le leur a donné. C'est un fait indéniable. Ils ont été régénérés. Donc, automatiquement, ils sont devenus, ce que la Bible dit, le temple, des temples de Dieu aptes à recevoir le Saint-Esprit à demeure. Ils ont reçu. Si seulement ils voulaient se prévaloir par la foi de cette partie de la promesse de Dieu, comme ils se sont prévalus de l'autre partie, voyez, ils les expérimenteraient glorieusement tous les deux. Il vient, mais il vient aussi pour changer, mais il vient aussi pour habiter. S'ils veulent mettre tout l'accent sur la nouvelle naissance et se contenter simplement à posséder un nouvel esprit, mais une possibilité magnifique leur échappera. L'expérience d'une vie forte et joyeuse et les nombreuses bénédictions que Dieu leur a destinées en Jésus-Christ, ils ne pourront pas les obtenir. Mais s'ils acceptent la promesse de Dieu dans sa totalité, en ajoutant foi au fait divin, car la régénération, Dieu leur donne aussi une nouvelle vie, plus la personne même du Saint-Esprit qui habite en eux, alors vous voyez que la vie spirituelle fera quoi? Elle fera d'énormes progrès. Frères et sœurs, la personne qui habite au-dedans de nous, au-dedans des chrétiens, nous révélera Christ, dit la parole de Dieu, nous sanctifiera et nous conduira sur des sommets, sur des hauteurs, le Saint-Esprit. Et pourtant, il arrive souvent que les chrétiens minimisent la position élevée occupée par cette personne, le Saint-Esprit. Il faut qu'ils se souviennent que c'est un honneur que Dieu leur fait en leur accordant une telle personne, le Saint-Esprit. Et cela pour toute leur vie. Pour toute leur vie. Quiconque désire demeurer en Christ et vivre une vie sainte comme la sienne doit accepter les ressources que Dieu a mis à sa disposition, les ressources que Dieu lui a destinées. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Le Saint-Esprit. Et la question qui se pose maintenant est celle-ci. Allons-nous le laisser accomplir son œuvre à l'intérieur ou pas? Le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme fusionnent. Jésus a dit, celui qui s'attache au Seigneur Jésus est avec lui un seul esprit. Il n'a pas dit deux, un seul esprit. Et c'est des versets du genre à m'interpeller tous les jours, un seul esprit. Donc, ayant réalisé comment le Saint-Esprit vient et fait sa demeure en nous à la nouvelle naissance, frères et sœurs, nous devons observer exactement où il réside. Où il réside. Nous espérons qu'ainsi, nous connaîtrons mieux la façon dont il opère au-dedans de nous. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Vous voyez le parallèle qu'il fait entre le temple et le corps de l'homme. L'apôtre implique ici que le Saint-Esprit réside en nous, habite en nous comme Dieu habitait autrefois dans le temple. Voilà comment l'Esprit habite. Bien que le temple tout entier symbolisa le lieu de la présence de Dieu et servait d'image, tout simplement, d'image un peu générale de sa résidence, mais c'est néanmoins dans le Saint des Saints, nous dit la Bible, que Dieu demeurait réellement. Il y avait les parvis extérieurs, il y avait le lieu saint. Le lieu saint d'ailleurs et les parvis extérieurs représentaient simplement les différentes zones d'activité qui sont en harmonie avec la présence de Dieu dans le lieu très saint. Et l'Esprit de Dieu habite maintenant dans notre esprit. Voyez, dans le lieu très saint était le symbole. Très saint, notre esprit. Ce qui signifie que l'occupant et son habitation, oui, c'est ça, doivent partager le même caractère. Puisque Jésus dit que nous sommes un seul esprit avec lui. Donc, c'est le même caractère. Oui, le même caractère. Et seul l'esprit de l'homme régénéré est apte à servir de demeure de Dieu. Il ne s'agit pas de l'intelligence, ni le sentiment, la volonté, pas plus que le corps, non. Le Saint-Esprit est à la fois un constructeur et un occupant. Et il n'occupe que ce qu'il a construit. Ce qu'il n'a pas construit, il ne peut pas venir y demeurer. Il ne peut pas demeurer dans ce qu'il n'a pas construit lui-même. Le Saint-Esprit ne peut pas établir sa demeure dans la chair de l'homme, car cette chair inclut tout ce que l'homme avait et tout ce que l'homme était avant sa nouvelle naissance. Il ne peut même pas demeurer dans l'esprit d'une personne qui n'est pas née de nouveau, encore moins dans son intelligence, dans ses sentiments, dans sa volonté ou dans son corps. C'est pas possible. Frères et sœurs, de la même manière que l'huile sainte, voyez, de l'onction n'était pas répandue sur la chair, nous enseigne la parole de Dieu, le Saint-Esprit, lui non plus, ne demeure dans aucune partie de la chair. La seule relation qu'il a avec la chair, le Saint-Esprit, c'est de la combattre. Le Saint-Esprit combat les convoitises de la chair, selon Galates 5, 17. S'il ne trouve pas dans l'homme un élément différent de la chair, c'est-à-dire l'esprit, il lui est impossible d'y demeurer. Bien-aimé, il est donc indispensable que l'esprit de l'homme soit régénéré. Indispensable pour que le Saint-Esprit habite dans le nouvel esprit. Enfin, pour terminer, sachant ceci, que si nos prières sont dirigées, comme dit la Bible, vers notre Père qui est aux cieux, nous devons savoir aussi que notre Père nous dirige de l'intérieur. Parce que son esprit est là, de l'intérieur. Alors ma prière ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Esprit de Dieu lui-même, en quelque sorte, nous enseigne ces choses afin qu'elles deviennent claires et nettes comme l'eau de source pour chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse sa parole.
Amen. Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, vu l'importance du sujet que nous venons d'aborder en ces quelques minutes, sujet très vaste, très étendu, très important, notre prière ce matin, c'est que par ton esprit même, que tu nous enseignes ces choses, que tu nous enseignes chaque jour, je dis bien chaque jour, ces choses de l'esprit, justement, pour que nous prenions conscience que tu as fait de nous des êtres spirituels, d'abord, et qui habitent un corps. Ta parole dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit, d'abord, et le reste, ensuite. Les réalités divines sont d'abord spirituelles, invisibles, et c'est par la suite seulement qu'elles deviennent visible, palpable. Il en est ainsi de ce qui se passe dans la vie d'un homme qui a été régénéré. Seigneur, merci pour ce don si précieux, le Saint-Esprit de Dieu. accorde-nous cette capacité surnaturelle de ne point l'attrister, mais au contraire de lui laisser toute la place, mais vraiment toute la place, et d'être sensible à sa présence. Que nous puissions le laisser guider nos vies et simplement faire sa volonté qui n'est autre que la volonté de Dieu. Jésus a dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous le transmettra. Oui, Saint-Esprit, règne en maître dans nos vies. Comme on a dit dimanche dernier, règne en maître dans ton Église, puisque c'est toi qui as amené l'Église à l'existence, et que la gloire ne revienne qu'à Dieu le Père, par le nom de Jésus. Amen.
Amen.